Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes toujours en compagnie des femmes artistes, des artistes femmes, et c'est maintenant la cinquième émission sur le sujet, et je n'en vois toujours pas la fin, et vous non plus, évidemment, tant il y a de créatrices, d'artistes de sexe féminin, majoritairement oubliées par l'histoire. Bon, je reconnais que je suis allée vaillamment à la recherche de l'information, quitte à traquer ces femmes, à les débusquer dans tous les recoins possibles. Puis vous savez peut-être comment c'est, vous tirez un fil et puis c'est toute la pelote qui arrive. Mais oui, c'est ainsi. Mais il ne fallait peut-être pas me provoquer non plus en m'affirmant que les femmes artistes n'existaient pas dans le passé, qu'elles ne créaient pas, ne s'exprimaient pas, bref, sortir de leur rôle de mère au foyer ou d'objet, on va dire, de plaisir ou utilitaire ou décorative, elles n'existaient pas. Bon, avouez que c'est un peu fort à accepter, même si apparemment j'ai la tête de quelqu'un à qui l'on peut sortir les plus grosses bourdes avec le plus grand naturel. Bon, sans doute ma féminité y est-elle pour quelque chose. Et pourtant, elles sont bien là, les femmes présentes, vivantes, palpitantes même de vie, bien qu'elles ne soient plus de ce monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore au XVIIIe siècle. Je n'ai pas terminé avec le XVIIIe, puisque je n'ai parlé que de quelques peintres les plus en vue, ainsi que de musiciennes plutôt créatives, malgré les bâtons dans les roues. Enfin, j'ai quand même réussi à évoquer l'existence d'une sculptrice, hein, et vous avez pu constater combien elle a su, de son vivant, provoquer le même effet sur les esprits de l'époque qu'un mutant aurait aujourd'hui sur les nôtres. Mais reste encore à rencontrer quelques sculptrices, peintres, écrivaines et poètes. Alors j'ai terminé la dernière fois avec une sculptrice et nous allons commencer l'émission avec les sculptrices. Alors je dois dire que j'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai évoqué quelques-unes au cours des siècles, hein, mais la dureté et l'exigence de la discipline alliées aux interdictions et blocages sociaux ne sont pas propices à l'émergence de femmes qui s'adonneraient à la sculpture. Cependant, j'en ai trouvé, et surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, car c'est surtout apparemment à ces périodes qu'elles émergent. Ne serait-ce que la française Marianne Collot, qui n'est autre que la belle-fille du sculpteur Étienne Falconet, et ce dernier l'a certainement pris sous son aile. Si bien qu'elle est partie très jeune en Russie pour suivre ce sculpteur, et que par la suite elle est restée de longues années pour travailler la sculpture, grâce à quoi elle a remporté quelques succès. Et d'ailleurs, elle a contribué à réaliser le monument dédié à Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg. Alors en dehors de cela, elle a réalisé des bustes de personnalités connues, et notamment celui de Catherine II de Russie, qu'il a pris sous sa protection. Alors la reine Catherine II de Russie est connue pour être éprise de culture et admirative de la France. Elle a d'ailleurs entretenu des liens avec elle par l'intermédiaire de ses artistes et de ses intellectuels, notamment avec Voltaire par le biais d'une correspondance et avec entre autres l'écrivain philosophe Denis Diderot qu'elle a je crois même reçu en Russie. Alors Marianne Collot a reçu le titre d'agrée de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg alors qu'elle a été refusée à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Alors j'ai trouvé une autre sculptrice, encore une française, nommée Clémence Sophie de Sermezy, née dans les années 70 du XVIIIe siècle. Celle-ci a été formée par un sculpteur nommé Joseph Chinard. C'est une femme qui a reçu une solide culture, elle était issue d'un milieu très aisé, et à ce qu'il paraît, elle était très cultivée et parlait 5 ou 6 langues. Alors cette dame faisait salon, elle recevait chez elle l'élite artistique et intellectuelle de sa région lyonnaise. Elle y aurait eu du succès avec ses portraits, et ce, surtout au XIXe, où elle a réalisé nombre de terres cuites, surtout des bustes et des statuettes. Et nous pouvons d'ailleurs retrouver ses œuvres au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Or, une autre sculptrice, nommée Marguerite Julie Charpentier, née approximativement à la même période, aurait étudié, elle aussi, chez un sculpteur nommé Augustin Pajou. Elle a reçu des commandes, collaboré à la décoration de monuments avec ses bas-reliefs, tels que la colonne de la Grande Armée située à Paris. Et son œuvre est relativement importante entre la réalisation des bas-reliefs, de statues, de bustes en plâtre, en terre, en pierre et en bronze de personnalités artistiques et des célébrités de l'époque. Malgré tout, son art ne lui a pas permis de vivre correctement, puisqu'elle a survécu tant bien que mal en réalisant des modelages et des moulages pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Mais l'histoire ne m'a pas révélé si au XVIIIe siècle, comme au XXe et encore au XXIe siècle d'ailleurs, les femmes étaient moins rémunérées que les hommes pour un travail identique. Quoi qu'il en soit, et au bout du compte, celle-ci a fini dans la misère et a terminé ses jours à la Salpêtrière de Paris. Alors j'ai découvert une autre artiste, une touche-à-tout, douée pour de multiples disciplines. Il s'agit de Stéphanie de Virieux, et celle-ci, pour son malheur, est née en 1785, peu après la Révolution, dans la caste des nobles honnis par les révolutionnaires, si bien que le château familial avait été brûlé, le père tué, laissant la famille dans le désœuvrement et la misère, etc. Alors je rappelle quand même que dans cette période troublée, certains nobles dits aristocrates, dans le sens où ils faisaient partie d'une élite, qui bien qu'elle soit réelle ou fictive, avaient épousé la cause des révolutionnaires, ce qui ne les a pas empêchés de passer à la guillotine, comme tous ceux de leur caste et comme certainement des nobliaux de province, plus proches pourtant du quotidien du peuple que du clinquant du pouvoir. Alors en ce qui concerne Stéphanie de Virieux, ces perturbations ne l'ont pas empêchée de manifester des dispositions artistiques très jeunes, préadolescentes, qu'elle a essayé d'exprimer comme elle pouvait, avec les moyens du bord qui étaient restreints. Et peut-être aussi que l'art l'a aidée à affronter ses malheurs, ce que je peux comprendre. Bon, ceci dit, elle a pris des cours de dessin chez un élève du grand peintre David, et ce dernier la remarqua d'ailleurs quelques années plus tard. Alors je l'ai présentée comme une touche à tout, car en effet, en plus de ses sculptures, qu'elle réalisait en bois, je crois, elle fabriquait également du mobilier. Et elle s'était d'ailleurs aménagé un atelier pour l'occasion. Et en plus, elle était peintre et dessinatrice. Si bien qu'à la fin de sa vie, j'ai lu que 3000 œuvres avaient été dénombrées. Bon, j'ai noté également une de ses réflexions sur le dessin qu'elle affectionnait particulièrement. Et je vous la lis. Le dessin n'était pas un simple goût chez moi, c'était une passion dominante, unique, absorbante, et elle m'a duré avec une intensité au-delà de bien d'autres passions, et jusqu'à ce que les chagrins, des inquiétudes continuelles, soient venus m'en arracher, et encore, dès que j'étais un peu tranquille, le dessin redevenait presque ma seule occupation et faisait toute ma joie. Alors ça, c'est un bel hommage à son art. Donc voilà les sculptrices que j'ai pu rencontrer au XVIIIe siècle. La dernière présentée est une touche à tout, mais sans doute il y en a-t-il d'autres, d'obscures inconnues et qui le sont restées parce que peut-être elles n'ont pas réussi à passer tous les obstacles qui se présentaient devant elles. Or, si vous avez bien écouté, vous avez remarqué que je n'ai cité que des sculptrices françaises. Il y en a-t-il dans d'autres pays? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a-t-il, mais je crois que je devrais faire des recherches encore plus poussées, et ce n'est pas toujours si aisé. Bien, mais nous allons nous arrêter un petit moment, le temps de vous faire écouter une musique composée par une femme du XVIIIe siècle, toujours, et je vous propose d'écouter le nocturne en la bémol majeur, nommé Murmullo, de la polonaise Maria Szymanowska, l'une des compositrices que j'ai citées dans l'émission précédente. Thank you. Merci à cette compositrice venue du temps passé pour nous toucher avec sa création. Alors, je vais revenir sur les peintres. J'en ai répertorié là beaucoup plus que des femmes sculpteurs, en dehors des trois têtes d'affiche dont je vous ai parlé la fois précédente, à savoir la française Elisabeth Vigée-Lebrun, l'italienne Rosalba Carriera et la Suisse Angelica Kaufmann. Alors, il est quand même à noter que les femmes artistes qui sont passées par la Révolution ont été les grandes oubliées de l'histoire de l'art, comme quoi on peut toujours clamer liberté, égalité, fraternité, et se trucider pour cela, reste que dans la vie quotidienne et concrète, ce n'est pas une réalité pour tout le monde. Cependant, l'une d'entre elles, même si l'on n'en entend plus parler, eut une reconnaissance et un succès professionnel pendant et après la Révolution. Alors, c'est une portraitiste parisienne nommée Marie-Geneviève Bouliard qui a fait partie des peintres accrédités par la Révolution et qui a peint des portraits des personnalités de l'époque, et ceci comme sa collègue d'ailleurs nommée Jeanne-Marie-Catherine Desmarquet. Alors, cette dernière a plutôt réussi sa carrière avec une production conséquente. Elle a même créé une école, mais ses tableaux sont signés au zoo du nom du mari. Comme quoi la Révolution a laissé quelques droits à certaines femmes artistes quand même. Alors, la dernière émission, je vous disais que les femmes étaient généralement affectées et cantonnées à l'art du portrait de la nature morte, où ça donnait à des scènes de genre tout à fait anodines, les sujets plus sérieux jugés plus nobles, comme les scènes mythologiques et historiques, étant réservés pour les hommes, ainsi qu'un enseignement plus conséquent. Et malgré tout, les femmes s'acquittaient fort bien de ces travaux dits féminins, d'ailleurs jusqu'à obtenir reconnaissance, voire exceller pour certaines dans leur art, jusqu'à en recevoir des commandes. Et c'est le cas de Jeanne-Élisabeth Chaudet, née Gabiou, et épouse en première noces du sculpteur Antoine-Denis Chaudet. Elle fut influencée par la peinture de Greuze et s'est spécialisée dans des scènes de genre avec des sujets légers et quotidiens où sont mis en situation des jeunes filles, des enfants ou des animaux. Et elle provoqua néanmoins la critique pour avoir exposé une scène mythologique. Elle a osé et ça lui est retombé dessus. Alors, autre femme peintre, c'est Marguerite Gérard, qui fut longtemps la collaboratrice du peintre Jean-Honoré Fragonard, en plus d'être sa belle-sœur, et dont la peinture s'affirma et connut ses plus grands succès à la mort du maître. Et on suppose qu'elle s'était soumise auparavant à la volonté de Fragonard pour ensuite expérimenter sa liberté et prendre son envol. Alors, une autre peintre dont le destin est plutôt pathétique se nomme Constance Mayer. Celle-ci montre des dispositions certaines et suit des cours de peinture avec Greuze, puis avec le peintre Pierre-Paul Prudhon, avec lequel elle aurait partagé plus qu'une simple relation artistique. Or, ce dernier, marié, a 5 enfants et sa femme, qui souffre de problèmes psychiques, finit par être internée. Et c'est alors Constance Mayer qui va s'occuper de la famille, si bien que l'une des filles finira par l'accuser d'être responsable des problèmes familiaux. Et c'est là peut-être la première ombre au tableau, si je puis dire. Alors, d'un point de vue artistique, justement, elle ne sort pas de l'ombre de Prudhon, puisque ses tableaux ne sont considérés que comme des copies de ceux du maître. Et ce dernier, au décès de sa femme, alors que c'est possible et peut-être convenu, refuse d'épouser Constance Mayer, si bien qu'il n'y a qu'un pas pour attribuer sa fin fatale à une accumulation de désillusions et de peines. Car en effet, Constance Mayer met fin à ses jours dans l'atelier de Prudhon en se tranchant la gorge avec un rasoir. D'ailleurs, c'est Prudhon lui-même qui trouvera le corps baignant dans son sang. Bon, apparemment, c'est un électrochoc pour lui, puisqu'il s'occupera ensuite des tableaux de la défunte et montrera même une exposition en son honneur. Et il est dit qu'il ne se remettra pas de ce drame et décédera 2 ans plus tard. Enfin, tout cela est bien triste, hein. Bon, revenons à nos peintres et à leurs activités. Alors, Anne Vallaillé Koster, elle, se distingue dans la peinture de nature morte et s'imposera dans ce genre. Et d'autres s'adonneront aux scènes de genre, portraits, etc., comme les Anglaises Maria Cosway, Marie Moser, la Française Marie-Denise Villiers, dont apparemment on confondra les tableaux avec ceux de David. Parce que les problèmes que rencontraient les femmes artistes dont les professeurs masculins étaient reconnus, c'est que devant une œuvre de qualité non signée, on attribuait automatiquement à un peintre masculin. Alors il y eut Françoise Duparc, d'origine espagnole, qui s'attacha à montrer les travaux du quotidien, une femme qui coud ou s'occupe de son enfant. C'est Adélaïde Labille-Guillard, spécialisée dans l'art du portrait. Elle commencera à étudier adolescente jusqu'à maîtriser parfaitement la peinture à l'huile, le pastel, la miniature. Elle parviendra quand même à rentrer à l'Académie de peinture et de sculpture en même temps qu'Elisabeth Vigée-Lebrun, ce qui sera sujet à polémique. C'est toujours la même question, doit-on y admettre des femmes ? Alors elle réussira aussi à exposer ses œuvres, ce qui provoquera un scandale car une femme n'y était pas autorisée. Et malgré ses succès, elle sera toujours soumise à la critique. Alors comme Elisabeth Vigée-Lebrun, elle recevra protection de la reine Marie-Antoinette. Et c'est à la Révolution d'ailleurs qu'une grande partie de ses œuvres seront détruites. Après la Révolution, elle réussira à reprendre sa vie d'artiste, sauf que les temps ayant changé, l'Académie royale de peinture est remplacée par l'Académie des beaux-arts, et là encore, il faut repartir à zéro, car les femmes ne sont plus admises. Et voilà comment s'appliquent dans la société les belles valeurs égalitaires nées de la Révolution, où nous pouvons encore faire les mêmes constats. Alors pour en revenir à Adélaïde Labille-Guillard, c'est une femme qui lui viendra en aide, l'une de celles qu'elle a enseignées et soutenues, et qui deviendra elle-même un peintre abouti et reconnu. Et ce peintre, c'est Marie-Gabrielle Capet. Alors curieusement, elle n'est pas issue d'une famille d'artistes, ni même d'un milieu aisé, puisqu'elle est fille de domestique. Alors on ne sait pas trop comment elle a révélé ses dispositions artistiques, sauf que Adélaïde Labille-Guillard a été un soutien pour elle, pour qu'elle puisse accéder à la maîtrise de son art. Aussi, lorsque sa notoriété s'affirme et qu'elle reçoit commande de ses œuvres, et qu'entre-temps Adélaïde a besoin d'un soutien à son tour, eh bien Marie-Gabrielle répond présent et elle subviendra aux besoins de celle qui est devenue son amie jusqu'à la fin de sa vie. Alors nous parlions de valeurs égalitaires et fraternelles. Apparemment, malgré leur différence de caste, ces deux-là ont appliqué les valeurs prônées par la Révolution. Alors en ce qui concerne son art, il est dit que Marie-Gabrielle Capet réalisait des portraits, des miniatures et qu'elle était une remarquable pastelliste. Alors parmi ces peintres, des rebelles qui ont osé empiéter sur les terrains masculins, et c'est le cas de Anna Dorothea Lisiuska Terbouche qui a osé s'attaquer à des thèmes historiques et insérer des nus masculins. Alors elle remportera le soutien de l'écrivain philosophe Diderot qui soulignera son courage. Et d'ailleurs, certains hommes intellectuels ou artistes se feront les alliés de ces femmes pour les aider à faire reconnaître leur légitimité et souligneront leurs difficultés pour exister en tant que femmes artistes au XVIIIe siècle. Et le peintre David, entre autres, défendait les femmes, les encourageant à peindre également des sujets historiques. Et je citerai également l'écrivain et philosophe français Montesquieu, qui écrivit « L'empire que nous exerçons sur les femmes est une véritable tyrannie ». Comme quoi certains hommes, plus justes, avec un esprit égalitaire, plus sensibles et aussi dotés d'un mental plus performant que la moyenne, sont désolés du traitement infligé à leurs collègues et ou amis. Alors pour ce qui est d'Anna Dorothea Lisiuska Terbouche, c'est la maternité qui l'éloignera de la vie artistique. Elle s'arrêtera de peindre pour assumer ses responsabilités de femme au foyer, mais quand elle voudra revenir quelques années plus tard sur la scène artistique, elle aura beaucoup de mal. Car abandonner sa place quand on est femme est beaucoup plus difficile à récupérer par la suite, même s'il a fallu lutter davantage qu'un homme pour l'obtenir. Alors la même volonté d'ouvrir d'autres perspectives se retrouve chez Maria Hartfield, qui malgré son nom est née et élevée en Italie, et celle-ci fondera dans ce pays deux écoles pour jeunes filles. Elle doit une partie de sa célébrité à Thomas Jefferson, car on lui prête une liaison avec celui qui deviendra le futur président des États-Unis. Alors, dans celles qui cessent leur activité artistique une fois mariées et à contre-cœur, je mentionnerai le cas de Marie Guillemine Benoît, née Leroux, qui s'est même exprimée de façon désabusée sur le sujet. Alors, qui est-elle? C'est un peintre de talent également, élève de David et d'Elisabeth Vigée-Lebrun, qui elle aussi recueillera un grand succès et sera même appelée à la cour pour exécuter un portrait de Napoléon, alors premier consul, et de sa famille. Bon, vous avez compris que la Révolution est passée. Elle reçoit également un traitement du gouvernement français, une bourse avec laquelle elle ouvrira une école d'art pour les femmes. Enfin bref, la critique est élogieuse, elle est propulsée au devant de la scène. Et elle aussi cherchera à s'affranchir des genres mineurs en abordant la peinture historique et mythologique. Et elle le fera et défrayera même la chronique en exposant au salon de 1800 un portrait d'une femme noire qu'elle aurait peint peu après l'abolition de l'esclavage, tableau qui a suscité quelques remous. Et il est dit que ce tableau a été considéré comme un manifeste de l'émancipation à la fois des femmes et des esclaves. Alors pour la petite histoire, je rappelle que l'esclavage a été rétabli par la suite par Napoléon. Après tout, ben pourquoi se gêner, hein ? Le tableau est très beau, hein, pour en revenir à ce peintre. Quoique dénudée, la femme est assise sagement dans une atmosphère ouatée, enveloppée de linge dont la blancheur fait encore ressortir l'ébène de la peau. Il est dit aussi dans les milieux artistiques que peindre une peau noire était considéré comme un espoir et que bien peu de peintres osaient s'y attaquer. Et Marie Guillemine Benoît l'a fait, elle a même osé l'exposer avec des retombées à la fois positives et négatives, hein, comme on peut le supposer puisqu'il s'agit d'une femme. Alors malgré des hauts et des bas, le talent et la renommée étant au rendez-vous, une belle carrière s'était ouverte devant elle, sauf que cette dame était mariée et que son mari, banquier de son état, s'est vu proposer une fonction très prestigieuse dans le gouvernement de la Restauration de l'époque. Et il n'était pas de bon ton qu'une femme soit peintre, comme si c'était une tare, auprès d'un homme qui occupe une fonction aussi sérieuse et prestigieuse. Cela froissait la bonne moralité des bien-pensants, assis probablement sur le siège de ceux qu'ils avaient éjectés, je ne doute pas, sous prétexte de belles valeurs égalitaires et de libéralité, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, au fait de sa gloire et risquant de placer son mari en fâcheuse posture, avec des retombées négatives qui évidemment en découleraient, elle a renoncé à son art et en a bien évidemment souffert. Et combien d'autres comme elle ? Bien, ben nous allons en rester là avec les femmes peintres, j'en ai oublié un peu par la force des choses. Après les musiciennes, les sculptrices, les peintres, nous allons nous pencher cette fois-ci sur le cas des écrivaines et des poètes. Mais vu le temps qui est passé, ben ce sera cette fois encore pour la prochaine fois. Il nous reste juste un peu de temps pour terminer cette émission avec encore une musique composée par une femme du XVIIIe siècle. Il s'agit de Maria Teresa Anisi et vous allez écouter l'ouverture de Ulysse in Campania.
Thank you.
C'est après ces quelques notes bien agréables que nous nous quittons. Il me reste à vous dire au revoir et à bientôt en compagnie des femmes artistes sur la Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.